Chers amis, bonjour. Nous allons essayer de parler comment faire la Souda de Shabbat, veille de Pessah. Alors, évidemment, il y a 13 ans, nous avions eu ce cas-là de Pessah qui tombe là, à la sortie de Shabbat. Et 16 ans avant, nous avons eu Pessah. Donc, et dans 4 ans, si je ne me trompe pas, on a encore... Donc, vous voyez... Évidemment, c'est pas évident pour certains. Pour d'autres, c'est très bien parce qu'on va pouvoir se reposer et être en pleine forme le soir du Seder. Parce que souvent, on ronfle au moment où on est en plein dans le Seder. Et c'est assez énervant pour celui qui raconte le Seder. En tous les cas, comment faire ? Et c'est tout le monde se pose la question. Et plein de cours sont donnés. Comment faire la Seuda de Shabbat, veille de Pessah ? Alors, il y a, on va dire comme ça, deux grandes possibilités. Et ce que je vous dis, ce sont des poskim d'aujourd'hui, entre autres d'après le Rav Ofer Malka, qui nous donne ces deux grandes idées. Alors j'ai essayé de les exposer. Tout d'abord, on enlève tout le chametz, d'accord, et on le vend, et on brûle ce qu'il y a pour accomplir la mitzvah avant, c'est-à-dire vendredi, avant chatzot, c'est-à-dire avant midi et demi ou une heure et un. Bien qu'on ait toute la journée pour le faire, mais pour éviter, comme dit le Ben Ishraï, que l'on oublie et qu'on dépasse l'heure et que l'année d'après dit bien, et l'année dernière on avait fait à 3h de l'après-midi, aujourd'hui cette fois-ci, alors que ça tombe pas pendant Shabbat, on risque d'avoir un problème. C'est pour ça qu'on évite et on brûle vendredi matin le Hametz, comme si vendredi soir c'était Pessah. Deuxième chose, on laisse évidemment du pain pour la souda de vendredi soir et de Shabbat matin. Comment on va faire? Alors, je vous déconseille d'avoir des chalotes, parce que les chalotes, il y a beaucoup de pérourim, beaucoup de miettes, et c'est une catastrophe. Donc il vaut mieux avoir des pitotes, d'accord? C'est souvent, on dit des pitotes pour la souda, des pitotes, parce que c'est ce qu'il y a de moins salissant au niveau des miettes. Et évidemment, pour ça... L'autre chose, c'est que on va parler de la souda par rapport au pain, mais comme c'est Shabbat et le lendemain est juste après, c'est Pessah, donc on sera obligé de cuisiner tout, même pour Shabbat, dans des ustensiles de Pessah, puisqu'on a déjà tout nettoyé pour Pessah. Donc le mieux, c'est tout d'abord d'avoir une autre table, une table de côté. Alors ceux qui ont un jardin, c'est très bien. Ceux qui n'ont pas de jardin, d'avoir une table de côté ou dans une autre pièce, par exemple, et de manger dans une autre pièce, dans une table, juste les quelques salades. On a préparé des salades d'un petit pot, avec une nappe en plastique et des assiettes en plastique, jolies parce que c'est quand même Shabbat, et de manger les pitotes. On a fini, on fait le kiddush Shabbat évidemment, on a fini et on passe à table et on mange cette fois-ci, évidemment, à table, dans la souda, le repas, etc. Cette fois-ci, évidemment, on mange plus de pain. Et on mange, il vaut mieux toujours dans des assiettes, des belles assiettes en plastique, de peur qu'on ait des miettes de pain qui tombent, etc. Toujours, lorsqu'on sort de l'endroit où on a mangé du pain, se dépoussiérer, d'enlever ce qu'il risque d'avoir, et de continuer dans la table principale de manger la souda. Alors, il y en a qui vont dire, mais il y a un problème au niveau du Birkat Hamazon, parce que je pars d'un endroit, je vais dans un autre endroit, et donc c'est comme s'il y avait une sorte de séparation de deux endroits. Alors là, effectivement, le Shulchan Aruch, il rapporte comme ça dans le chapitre Kuf Ein Zain, c'est-à-dire le chapitre 177, qu'en quoi il suffit, comme ça rapporte le Mishnah Berurah, il suffit, comme la Seuda continue, de penser à ce que lorsque je vais aller dans la première table, dans une autre pièce, de continuer, j'ai l'intention de continuer à manger dans la table d'après, et donc je pourrais faire le Birkat Hamazon dans la deuxième table. Autre chose, si je mange, alors ça c'est ce qu'on a dit vis-à-vis du Birkat Hamazon, de faire Mossi, etc. Si on veut être quitte, d'accord, dans le sens où on veut manger dans la table principale et on veut peut-être pour éviter d'avoir une séparation et de pouvoir continuer à manger du pain, Évidemment, le pain, on ne peut pas le manger. Alors, certains préconisent, on peut, à la rigueur, continuer à manger dans la table principale de la matzah trempée. On la trempe un petit peu. Et afin que ça soit motzi d'après tout le monde. D'accord ? La matzah trempée d'après tout le monde, ça serait motzi. Évidemment, ce soir-là, pourquoi ? En tout cas, ce soir-là et le lendemain, parce que tout le monde, ce Shabbat-là, vont manger, ils n'ont pas le choix, on n'a pas le choix. On va manger plutôt de la matzah ou du pain, mais en tout cas de la matzah ce jour-là. Le Shabbat matin, comment ça se passe ? Alors évidemment, il vaut mieux parce qu'à partir de la 10e heure, c'est-à-dire que je pense que ça va être à 10h30, on doit finir d'avoir mangé le pain. Donc on va faire une seuda. On va faire une seuda à base de pain. Donc le Shabbat, il vaut mieux faire à base de pain, de se compliquer avec des matzot, etc. Bon, on verra ça la deuxième cas, mais en tous les cas, si l'on fait le seuda à base de pain, comme le seuda du soir, on mange dans une autre table. Mais pour ceci, il faut faire la prière du Shabbat matin très tôt, afin de commencer à manger très tôt et de pouvoir après finir la consommation du pain dans l'heure de, ça vous verrez chacun, dans l'heure je crois de 10h15, 10h30. Ça ne veut pas dire que la seuda, on est obligé de la finir. On peut continuer à manger la seuda ensuite et continuer dans la table principale. D'accord ? Ça c'est... Mais encore une fois, pour pouvoir manger de la matzah, on ne peut plus manger la matzah. C'est-à-dire que samedi matin, on ne peut plus, c'est interdit, le Shulchan Aruch. Il stipule évidemment que l'interdiction de manger la veille de Pessah, la plupart des poskim disent c'est à partir du matin. C'est-à-dire pas la veille au soir, mais du matin. Donc il est clair que samedi matin, Shabbat matin, on ne peut plus manger de la matzah. C'est fini. D'accord ? Pour accomplir la mitzvah de samedi soir, de manger de la matzah, mitzvah. D'accord. Autre chose. Que fait-on avec le chametz qui reste ? D'accord ? Parce que maintenant on a fini, on n'a plus le droit de manger du chametz, on est Shabbat en plus, et il y a un problème, ce qu'on appelle de mouxé, c'est-à-dire d'interdiction de déplacer des choses qu'on ne peut plus utiliser. Alors, le chametz, étant donné qu'on a une mitzvah de brûler le chametz, en tout cas, évidemment, on ne va pas brûler pendant Shabbat, puisqu'on n'a pas le droit d'allumer le feu. Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre le chametz, donc les morceaux de pain ou ce qui reste, d'accord ? On va les mettre en petites miettes et on va les jeter dans les toilettes. Pour celui qui dirait, mais ça ne se fait pas, etc., c'est une mitzvah de détruire le chametz. C'est comme une destruction. Ça s'appelle détruire, ça veut dire un bisaillon. C'est-à-dire, on annule tout ça. Et le seul endroit où on peut l'annuler, c'est le mettre dans les toilettes. Vous allez dire, mais c'est pas propre, etc. Il n'y a pas une notion de propre, puisque les toilettes d'aujourd'hui, ils sont propres. À l'époque, peut-être, c'était des toilettes turques ou dans les toilettes, etc. Et effectivement, il y avait un problème. Mais là, on a une mitzvah d'annuler. On ne peut pas garder chez soi le chametz. La seule possibilité de le faire, c'est, encore une fois, de le mettre aux toilettes. Vous allez me dire, bon, ben, je vais le jeter dans la poubelle. Non, puisque la poubelle, elle reste chez vous. Bon, alors, je vais la jeter à l'extérieur. Attention de porter pendant Shabbat. On n'a pas le droit. Donc, évidemment, ce chametz-là, on le détruira dans les toilettes et on tire la chasse et c'est parti. Dans le cas où on a beaucoup trop de chametz, il nous reste une pita entière, etc., on ne peut pas le jeter ça dans la toilette, ça va boucher, etc. Alors, à la rigueur, on prend un sachet, on le met en morceaux. Là, il faudrait prendre peut-être même deux sachets. Quelqu'un, il aide, il prend le sachet. L'autre, il va mettre les morceaux de pain dans le sachet et il va verser de la javel de telle façon que celui qui tient le sachet, il bouge comme ça pour que tous les morceaux de pain puissent être annulés par la javel pour ne pas que, c'est-à-dire qu'il soit plus comestible pour un chien. Il faut vraiment que chaque petit morceau qui reste ne soit plus comestible pour un chien. Donc vraiment bien secouer ce qui reste dans le sachet en plastique de chametz. Et ensuite ça, vous pouvez le balancer à la poubelle chez vous, évidemment. Lorsqu'on a fini tout ça, évidemment, il faut se brosser les dents. Alors, se brosser les dents pendant le Shabbat, c'est pas évident. Se brosser les dents juste au-dessus, etc. Bien se laver les dents avec un cure-dent enlevé pour ne pas qu'il reste du pain, chas et shalom, que le soir de Pessah, tout d'un coup, on veut faire la grande mitzvah de manger de la matzah. Et qu'est-ce qui se passe ? On a un morceau de pain qui sort de la dent et on mange le soir de Pessah un morceau de pain. Le Ben Ishraï raconte d'ailleurs à propos de ça une histoire d'un chassid qui faisait très attention à manger et à faire attention au chametz, etc. Et un soir, il a rêvé comme quoi il avait mangé du chametz. Il se réveille en pleine nuit, il dit, c'est pas possible, il se rendort, il rêve encore une fois, comme quoi on lui dit, tu as mangé du chametz. Troisième fois, il se rend compte qu'en fait, il y avait un morceau de chametz qui était resté collé dans sa dent. Et au moment de manger la matzah du soir, le chametz était sorti de sa bouche. Donc évidemment, se brosser les dents. Attention, Shabbat, on n'a pas le droit de se brosser trop fort de peur de saigner. Ou en tout cas, avec un cure-dent, d'enlever ce qui reste du chametz. Voilà, ça c'est la première possibilité. Je vous raconterai la deuxième possibilité après.